Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Il y a des auteurs que l'on peut lire, mais que l'on préfère ne pas entendre, et il y a ceux que l'on aime aussi entendre, ceux dont la voix vibre à la même hauteur que leur écriture. Bernard Noël est sans doute de ceux-là. En 2010, dans « Du jour au lendemain », Alain Weinstein recevait Bernard Noël à l'occasion de la parution de son dernier livre, œuvre 1, « Les plumes d'Eros ». Il s'agissait, à la demande de son éditeur POL, du premier volume d'une série réunissant des textes de Bernard Noël sur une cinquantaine d'années, avec une thématique dominant chacun des volumes de cette série. Après « Les plumes d'Eros » paraîtront en 2011, œuvre 2, « L'outrage aux mots », réunissant ses principaux textes politiques, et en 2013, œuvre 3, « La place de l'autre », rassemblant des textes consacrés à la littérature. Récits, poèmes et essais, « Les plumes d'Eros » étaient présentés comme rassemblant des écrits érotiques de Bernard Noël. Amoureux, corrigeait Bernard Noël dans l'entretien que nous allons entendre, qui voyait plutôt dans ce livre des variations sur le thème de l'amour. Et c'était bien Eros, dieu de la puissance créatrice, dieu de la fiction, que l'on entendait là dans les mots, dans la voix de Bernard Noël. Eros, le seul dieu qui reste quand tous les autres ont été déplumés, nous disait-il.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Bernard Noël, pour Les plumes d'Eros, chez POL. Ce qui dépasse. Les mourants le savent bien. Un gros livre, Bernard Noël, Les plumes d'Eros, avec un sous-titre, œuvre 1. Il y a une information déjà dans le sous-titre, c'est qu'il ne s'agit pas des œuvres complètes, et que c'est le premier volume d'une série. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est où va nous mener cette série de livres qui commence avec les textes érotiques.
Où va nous mener la série ? D'abord, les textes du premier volume, bien que sous le signe d'Eros, ne sont pas exactement érotiques. Ils sont, disons, plutôt amoureux. Donc c'est... Enfin, j'étais tenté de dire dans un premier moment que c'était des déclarations d'amour. C'est pas exactement ça. C'est un mélange de genres. Je veux dire qu'il y a à la fois des récits, des poèmes, des essais. En somme, des variations sur le thème de l'amour.
Il n'y a pas le château de Seine, par exemple.
Non, mais justement, ce qui est symptomatique, je pense. S'il y avait le château de Seine, ce serait des textes disant que le Eros serait érotique et non pas amoureux. Mais je dois dire que... C'est à partir du moment où j'ai eu conscience de ce thème que le livre est devenu possible. Parce que Paul, P.O.L., m'avait proposé de rassembler mes œuvres. D'ailleurs, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien parce que je me voyais renvoyé à un tas de papiers. Un tas de papiers plus ou moins poussiéreux et morts, si je puis dire. Donc j'avais franchement pas très envie de me replonger dans mes propres papiers. Puisqu'au fond, toute ma vie, ce qui m'a intéressé, ou bien ce que j'étais en train de faire, ou bien ce que j'espérais pouvoir faire, et non pas ce qui était déjà fait.
Vous ne relisez jamais vos livres ?
Non. Enfin, sauf en cas de nécessité. Si on les réimprime, par exemple, puisqu'il faut relire les épreuves. Quoiqu'aujourd'hui, on les photographie, donc ça simplifie le travail. Mais, si vous voulez, à partir du moment où j'ai eu cette idée de thème général, le rassemblement est devenu possible avec l'espoir, oui, que je n'étais pas en train de fabriquer un recueil, mais un livre avec des variations et des entrées diverses, mais qui j'espère, forme un tout. Ce qui m'intéressait, c'était le tout éventuel et non pas le recueil.
Évidemment, chacun des éléments du tout se lit différemment, à la lumière de l'ensemble.
Enfin, c'est ce que j'espère, mais il faut dire aussi que les textes qui sont rassemblés là sont, enfin, au départ, les plus anciens que j'ai écrits, qui ont, je sais pas, 50 ans. Bon, 50 ans, c'est loin d'autant que entre ces premiers textes et la suite, il y a eu un long silence, qui a sans doute joué un rôle déterminant dans ma vie, je suppose, puisque après avoir écrit ces petits récits qui sont au début, extraits du corps, je n'ai plus écrit de ce qu'on appelle aujourd'hui des textes, pendant une dizaine d'années.
Extraits du corps, c'était aux éditions de Minuit,
en premier volume. En 58, c'est loin.
Et est-ce que vous vous êtes laissé surprendre par ces textes à la relecture, donc par nécessité?
Et surprendre. Enfin, j'étais plutôt devant une espèce de mosaïque à construire. Ils sont plus ou moins dans l'ordre chronologique, mais pas toujours. Et donc je les ai agencés les uns par rapport aux autres, aussi en fonction de la manière dont ils sont écrits, plutôt qu'en fonction de leur contenu, avec des hésitations. Enfin, j'en ai rejeté un certain nombre. Je regrette, j'y ai pas pensé, je regrette de ne pas y avoir introduit le texte d'un opéra que j'ai écrit il y a quelques années à propos d'Héloïse et Abélard. Et au fond, je n'y ai pensé que quand le livre était quasiment imprimé, donc on ne pouvait plus le mettre.
C'est-à-dire que tous vos livres ne sont pas mis ensemble dans votre bibliothèque par ordre chronologique de publication ?
Non. Je déteste vivre avec mes livres. Donc je les
oublie.
Je les oublie ou je les empile au fond d'une armoire, donc je les oublie en partie.
Et ceux-là ont été rattrapés et regroupés sous le titre « Les plumes d'Eros ». Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, finalement, ce livre
dont... Eros.
Ce livre.
Ben, ce livre... qu'est-ce qu'il me dit? C'est vrai que... à partir du moment où il a été terminé... Enfin, il n'a été terminé, non pas au moment où j'ai rassemblé les textes, au fond, puisque je ne les voyais pas, mais au moment où j'ai vu le livre terminé, avec cette couverture rouge.
Inhabituelle chez P.O.L.
Inhabituelle, qui me plaît bien. Au fond, j'étais sensible à la couverture. Et c'est la couverture qui a, après tout, c'est son rôle, qui a couvert l'ensemble, et qui lui a donné le sens, peut-être une chaleur, la chaleur rouge. Et c'est étrange. C'est Prigent qui m'a dit, en voyant le livre, il m'a dit « Ah, mais est-ce que Paul devient révolutionnaire ?» Bon, c'est une plaisanterie, mais qui me plaît bien, au fond. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait de voir ce livre ? Bah, c'était plutôt la, comme tout livre, la satisfaction de l'avoir fini avec une tranche. Alors, évidemment, là, l'enjeu est assez différent puisque c'est à la fois une tranche de, d'œuvre, puis c'est comme ça que ça, le sous-titre. C'est aussi une tranche de vie. C'est une tranche de vie qui coupe à travers toute la vie, puisque les derniers textes sont relativement récents. Alors, qu'est-ce que ça fait que voir sa vie en coupe, si je puis dire.
Comment vous lisez-vous ?
Mais, à part le fait que je les ai lus pour les mettre ensemble, en quelque sorte pour vérifier qu'ils avaient leur place dans ce contexte, je ne les ai pas relus comme... Enfin, je crois qu'il m'est impossible à moi de les relire en tant que plume d'Eros. C'est-à-dire, j'ai relu chacun de ces textes pour vérifier s'ils convenaient à mon projet d'être placé sous le signe du dieu Eros. Avec en plus, les plumes, c'est plutôt ironique. Les plumes, c'est à la fois les plumes pour écrire, les plumes qu'on met aux petits anges.
Aux danseuses des Folies Bergères.
Aux anges d'amour. Et aux danseuses des Folies Bergères, pourquoi pas, oui. Mais là, ça s'appelle des boas, je crois.
Je vois que vous connaissez ça très bien.
Je n'avais pas pensé aux boas.
Le sous-titre, œuvre 1, laisse supposer qu'il y aura une œuvre 2. Donc vous avez peut-être une idée de,
mais j'ai une idée
de la série.
Non, j'ai une idée de l'œuvre 2. Puisque c'est toujours ce qui simplifie le rassemblement, c'est le thème. Donc, œuvre 2, ce sera tous les textes politiques que j'ai écrits depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais depuis ce qui a déclenché ma réflexion politique, entre guillemets. Ça a été d'abord une réflexion sur la censure, à cause du procès que j'ai eu pour le château de Seine. Et à partir de ce procès, qui m'a fait écrire un texte qui s'appelle l'outrage aux mots, à partir de cet outrage aux mots, qui était aussi une réflexion sur la censure avec un C, mais avec l'invention du mot censure avec un S pour désigner la privation de sens. Privation de sens qui m'a beaucoup occupé, ou obsédé même, depuis, je sais pas, 25 ans, 30 ans. Non, mais je ne sais pas encore comment s'organisera le livre, mais je sais ce que j'y mettrai. Voilà.
Et on peut supposer que la couverture sera encore rouge.
Ben oui. J'espère que tous mes livres seront rouges. Voilà.
Donc, chez POL, intitulé « Les plumes d'Eros », ce sont, vous venez de nous le dire, non pas les textes érotiques, mais des textes amoureux, des textes d'amour. Je pense qu'on peut entendre « amour » dans bien des sens. Pas de censure ici. D'ailleurs, le texte d'ouverture a un titre, déjà, qui met sur la voie « Un jour de grâce ». Où vous parlez d'une illumination, en somme, d'un état de grâce qui est arrivé il y a bien longtemps, c'était à la fin du printemps 1946, vous étiez collégien encore, et vous avez vécu ça, ce coup de foudre.
Oui.
En somme.
C'est vrai, un coup de foudre. Enfin, un coup de foudre auquel j'étais préparé, ou tout au moins auquel j'aurais dû être préparé, puisque la grâce, je veux dire, je vivais dans un collège religieux qui avait même le statut de petit séminaire, donc il était souvent question de la grâce. Mais aucune technique. Je pense que les exercices spirituels, ça existe quand même. Mais aucune technique de ce genre ne nous était enseignée. Je veux dire, la grâce, c'était quelque chose comme un don du ciel, sans doute, auquel préparait peut-être la messe quotidienne. On allait tous les matins à la messe, entre 6h et 7h. Mais cet état de grâce qui était proposé comme... qui était décrit plutôt comme un état, une visitation idéale, mais il y avait peu de chances qu'elle se produise. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est produite chez moi un jour, avec vraiment le sentiment d'une illumination qui me... Ouais, qui me mettait une lumière au front.
C'est comme ça que vous...
Enfin, je ne sais
pas
comment
décrire cet état d'illumination.
Comment la décrire ? C'est vrai que c'était
c'est une lumière.
Oui, une lumière en même temps qu'une espèce de liberté intense intérieure, comme ça, une montée intense intérieure. Alors l'étrange, c'est que cette illumination m'a complètement guéri de la foi. Alors si vous voulez, évidemment que dans les années qui ont suivi, puisque tout ça remonte en effet à plus de ça. Près de 60 ans. Enfin, quand j'ai écrit ce texte, il y a 10 ans, qu'il y avait au moins 50 ans que la chose était passée, j'ai toujours eu un doute quant à mon souvenir, mais je n'en ai pas quant aux événements qu'a déclenché cette illumination, parce que, à partir de ce moment, donc, ayant perdu la foi, mais n'ayant plus jamais de problème de foi, depuis... J'ai cessé d'aller communier tous les matins, parce que c'était la pratique de la communauté. Donc je restais seul à ma place, pendant que tout le collège montait à la table sainte. Ça a été assez, assez difficile à vivre, et ça je m'en souviens très bien. La confirmation de cette illumination positive sont les conséquences négatives qu'elle a eues dans ma vie pratique.
Donc on peut dire que la grâce est liée à la rupture.
Absolument, oui. Ou plutôt que la grâce a entraîné la rupture. La rupture avec... Et ça s'est traduit... d'abord, heureusement pour moi que c'est arrivé vers la fin de l'année. Je ne me rappelle plus exactement quand. À la fin de l'année, on m'a prié d'aller ailleurs. Alors que j'étais un assez bon élève, donc il n'y avait pas de raison de me jeter à la porte. Et la conséquence aussi est qu'à partir de ce moment-là, j'ai changé de prénom. Ce qui est aussi un souvenir précis. Enfin, une espèce de sanction, historique, dans ma petite histoire.
C'était la marque, de la rupture, changement de prénom.
En même temps, évidemment, je me demande quelle marque a laissé Je pense que cet événement a laissé en moi une marque qui est le désir sans doute de connaître une illumination équivalente que j'ai dû chercher peut-être justement dans la relation amoureuse.
Ou dans l'écriture.
Et probablement plutôt dans l'écriture. Oui. Enfin, l'écriture étant plus ambiguë parce qu'elle est à la fois un comble de... Avant d'être un comble d'être parfois une illumination, elle est aussi une angoisse et un moment difficile, disons.
Mais aussi un véhicule de rupture.
Un véhicule de rupture,
c'est vrai. Vous dites dans un texte qui est plus récent, de 1982, un poème, « L'été, langue morte, que l'écriture n'exprime pas, elle rompt ». On peut penser qu'elle est donc aussi précédée d'une sorte d'illumination.
Oui. Mais c'est vrai que ce que je retiendrai de ce que vous me restituez, si je puis dire, c'est la rupture. Je crois qu'au fond, tous les poèmes sont, sont, enfin les poèmes en général, quoi, je ne parle pas des miens, mais les poèmes en général reposent sur des ruptures, sur une organisation de la rupture. Puisqu'au fond, chaque vers, puisqu'il s'arrête, rompt avec quelque chose, et que c'est par rupture successive qu'un rythme s'installe, d'une part, et d'autre part, qu'il y a cette volonté, quand même, je pense, dans le vers, de rompre la linéarité. Récemment, j'assistais à un débat où il était question, justement, la linéarité dans le récit et dans le poème. Je pense que dans le poème, elle est justement contrecarrée sans cesse par cette rupture que chaque vers institue en fin de ligne. Alors que je me demande si la prose n'est pas condamnée, peut-être d'abord au récit, même s'il s'agit d'autre chose que du récit traditionnel. Après tout, peut-être qu'un développement philosophique est aussi un récit, après tout. Et une critique, une réflexion critique est aussi un récit, même si ça n'a pas les mêmes modes, ni la même manière. Si on ne le reçoit pas de la même manière. Alors je me demande en effet si le rythme, à partir du moment où il y a prose, je me demande s'il n'y a pas forcément adoption de la ligne du temps. Et à partir du moment où on entre dans la ligne du temps, ça raconte forcément quelque chose, me semble-t-il. Et sans doute que le vers s'inscrit contre ce mouvement-là. Je ne veux pas du temps. Je veux sortir du temps.
Sauf que la chose que ça raconte peut se glisser entre les lignes.
Oui.
Entre les lignes de la prose.
En plus, oui. Ça, enfin, c'est d'ailleurs ce qu'elle cherche, je pense. La prose cherche à pratiquer une espèce de tremblé qui fait apparaître sous la ligne un volume autre, un volume différent. Peut-être le volume de la présence, où on retrouverait la grâce, l'illumination, à travers la présence.
La grâce, alors, justement, 1982, puisque je citais l'été langue morte, ce poème de cette année-là, c'est aussi l'année où vous avez connu un état de grâce du regard.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, l'état de grâce, l'illumination est devenue, liée au, comment je pourrais appeler ça, au toucher du regard, à un toucher du regard qui transforme l'espace entre le regardeur et le regardé, pardon, qui fait qu'au lieu qu'il y ait spectacle, il y a participation, échange, amour, au fond. Le volume de l'amour, si je puis dire, qui est également le volume de la présence et qui remplace la circulation. Au fond, on vit d'habitude dans la circulation de l'information. Je veux dire que le regard, en général, est neutre. Et que, donc, le volume, enfin, l'espace dans lequel il se déplace ne sert qu'à ça, à véhiculer de l'information. Et à partir du moment où il y a, à l'extrême, touché du regardé par le regard, tout change. Enfin, c'est un vieux problème. Mm-hmm. Enfin, c'est pas un problème, c'est que je pense que, enfin, tout ça aussi est lié à la qualité de l'espace. Et alors, l'illumination qui s'est produite là, l'année que vous dites, mais qui était sans doute latente, c'est que, au fond, j'ai pris conscience du fait que l'espace est un, de l'unité de l'espace, et que il y a en quelque sorte identité entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, ce qui m'embête pour essayer d'expliquer ça, c'est que le vocabulaire est assez pauvre. Alors, on a les mots dedans, dehors, intérieur, extérieur. S'intérioriser à l'extérieur quand on s'exprime, intérioriser l'extérieur, etc. Ce que je trouve un peu barbare. par rapport à la grâce, justement, qui est derrière ces mots. Mais je ne sais pas comment on peut l'expliquer autrement qu'avec ces mots-là. Si vous voulez, comme est frappant le fait que, dès qu'il y a expression, enfin, ce que nous faisons, quand nous écrivons, quand nous peignons et quand nous parlons, après tout, dès qu'il y a expression, il y a transfert de l'intimité vers l'extérieur. Mais pas séparation. C'est ça qui est extraordinaire. S'il y avait séparation, évidemment, ce serait détachement. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, alors qu'il y a en permanence communication entre le dedans et le dehors, et transfert de l'un vers l'autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui rend dangereux le monde dans lequel nous vivons, parce que comme il n'y a pas de solution de continuité entre le visuel, disons, et le mental, le visuel peut occuper le mental, c'est ce que fait la télévision, par exemple. Et le visuel qui occupe le mental l'occupe au sens le plus violent du terme, le plus militaire du terme, au fond, de telle sorte que le lieu de la pensée est remplacé par le lieu de la représentation qui va manipuler la pensée.
On n'a plus de nos yeux pour voir.
On n'a plus nos yeux pour voir parce que nos yeux sont occupés, en effet, oui. Par le flux. Ah, pour ça, il faut que l'image bouge. Oui.
Les yeux sont très présents d'un texte à l'autre, dans un volume comme celui-ci.
Oui, ça, je ne me rends pas compte, mais...
C'est même par les yeux que passe l'amour.
Oui, c'est par les yeux que passe l'amour. C'est vrai qu'un jour, quelqu'un m'a donné une leçon comme ça. Je ne sais plus si j'en parle là, mais... Elle m'a expliqué qu'au fond, il y avait deux manières de faire l'amour, qui étaient les yeux ouverts et les yeux fermés. Les yeux ouverts, c'est un jeu, les yeux fermés, c'est une fusion. Voilà. Enfin, le but, disons.
Il y a un texte de 1986 intitulé « Le nu », dans lequel vous dites que la beauté n'est pas dans le monde, mais dans les yeux.
Ce que je pense profondément, ce sont nos yeux qui font que les choses sont belles. Et nos yeux sont... Comment dire, nous n'avons pas les yeux vides. Nos yeux sont aussi notre culture. Cette culture, elle est là. Comment dire, immédiate. Je veux dire que les yeux, au fond, possèdent un langage qui fait que le monde nous est représenté d'une certaine façon. Quand je pense à la beauté, évidemment, je pense toujours maintenant à Mallarmé, qui dit que nous sommes les formes éphémères de la matière, mais ayant eu la capacité sublime d'inventer la beauté. Et que, évidemment, la beauté est un mensonge. Mais lui parle de glorieux mensonges. Cette expression me plaît beaucoup. Nos illusions sont de glorieux mensonges. C'est à la fois... Ça nous rend maître de nos illusions.
Un glorieux mensonge, c'est une fiction?
Mais oui, c'est à la fois une fiction. Mais c'est une fiction réalisée. C'est ça qui est étrange aussi. Puisque la fiction, quand elle est menée jusqu'au bout, c'est-à-dire sans... avec obstination, si je puis dire, finalement, elle devient une réalité. Ça, c'est une chose qui m'a surpris, par exemple, en écrivant des récits qui n'ont aucun souci de réalisme, bien sûr. Comment un récit peut avoir des effets de réalité? Et les effets de réalité sont finalement une possibilité de l'écriture, à condition, me semble-t-il, de la pratiquer avec un parfait détachement, ne la pratiquer que pour elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ne pratiquer l'écriture que pour elle-même? Pour moi, ça veut dire la pratiquer avec assez d'abandon, pour perdre la maîtrise qu'elle semblera avoir. Ce qui m'étonne, c'est qu'après coup, elle a l'air d'avoir été maîtrisée, alors qu'elle ne l'était absolument pas. Et que, par exemple, enfin, c'est le cas des récits qui sont recueillis dans ce volume, tous ces récits ont été écrits. Il y a une vieille expression à laquelle je n'avais pas pensé, c'est au fil de la plume. Au fil de la plume.
Au fil des plumes des roses.
Au fil de la plume, c'est sans maîtrise, quoi, sans plan.
En s'abandonnant à Eros.
En s'abandonnant à Eros, peut-être, oui.
Eros, qui est le dieu de la fiction, vous le rappelez dans L'Enfer dit-on, et non pas le dieu du sexe, comme on pourrait supposer rapidement.
C'est vrai que c'est le dieu de la fiction. Ouais.
C'est le seul dieu ?
Oui, c'est celui qui reste. Quand tous les autres ont été déplumés, si je puis dire.
C'est-à-dire que la langue elle-même n'est pas...
Un dieu ? Non. C'est bizarre, oui. Qu'est-ce qu'est la langue ? Là, dans la minute, j'aurais envie de dire que c'est l'aile de l'ange. Mais ça n'est pas ce que... Ça, c'est sans y penser que je me permettrais de dire ça. Que l'écriture est l'aile de l'ange. Dans cet espace voué à la présence et non pas à la maîtrise. Au fond, c'est quand la langue est inutile qu'elle commence à prendre des ailes. Mallarmé disait ça très bien, en disant qu'il ne travaillait pas pour le journal. Le journal, c'est l'information, et la littérature, c'est tout à fait autre chose. Alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, dans un monde où, dès qu'on réfléchit sur ce qu'on fait, on vous traite d'intello. Je ne sais pas où on en est. Mais ce n'est pas du tout une opération intellectuelle, c'est une opération de... Ce qui mène ce genre de réflexion, c'est l'envie d'entrer dans le concret de l'acte qu'on est en train d'accomplir en écrivant, et vis-à-vis duquel le recul n'est peut-être pas possible au moment où on le pratique, mais il est évidemment possible après coup, donc l'observation.
On est seul quand on écrit ?
Oui. Oui, on est seul, oui. Toujours rêvé d'écrire avec quelqu'un d'autre, mais ça marche pas. Il y a un mot terrible de Kafka qui dit « Quand on écrit, on est seul, non pas comme un homme est seul, mais comme un homme est mort. » Je sais plus si c'est dans le journal, je pense. C'est une phrase terrible. Je pense qu'en effet, quand on écrit... On est complètement seul. Mais ce qui ne veut pas dire que cette solitude-là soit nécessairement dramatique. C'est une solitude, comment dirais-je, à facettes multiples. Mais je ne sais pas pourquoi, en effet, la condition de l'écriture, c'est l'isolement. Peut-être parce que... Il faut affronter, je sais pas, peut-être que l'écriture et la dépression ont des rapports difficiles à exprimer, mais c'est un voisinage dangereux. Alors c'est un peu délicat de parler de ce danger-là.
On écrit seul, mais toujours tourné vers l'autre.
Oui. Oui, mais qui est cet autre ? Si vous voulez, ça, bien sûr, c'est la question. Pour moi, cet autre, il est le tu. Mais ça, je crois que nous en avons déjà parlé d'autres fois. À quel point ce tu auquel on s'adresse, mais qui n'est pas personnifié, à la différence de ce qu'on pourrait croire, le « tu » est une figure plutôt qu'un personnage, une figure composite puisque dans le tu, il y a à la fois l'autre et il y a aussi le silence. Alors peut-être qu'on s'adresse aussi, si l'on s'adresse au silence de l'autre, évidemment c'est sans espérer une réponse autre que qu'une émission. Qu'est-ce que pourrait être une émission supplémentaire de silence, sinon de la présence au fond. La présence est aussi une forme de dialogue.
Et quelquefois de grâce.
Sûrement de grâce, oui. Ce qui m'intrigue, c'est que, au fond, on supporte mal la grâce, parce qu'on supporte mal le silence. Mmh. Qu'on est toujours tenté de rompre en faisant surgir de la parole, laquelle parole automatiquement sépare. Ça aussi, c'est une démarche qui est... Puisque dès que l'amour... j'éprouve le besoin de s'exprimer, mais il sépare, les mots séparent ce dont il crée, alors, en même temps qu'il crée la nostalgie de la réunion. Ouais.
Quand on lit les plumes des roses, les textes que vous avez rassemblés, Bernard Noël, que ce soit les poèmes ou les récits, on est frappé par l'omniprésence des dialogues, justement. Il y a beaucoup de dialogues.
Oui. Franchement, je n'en avais pas conscience. Ce qui m'a plutôt intrigué, c'est le fait que c'est assez peu autobiographique. Et quand c'est autobiographique, ça devient... Comment dire, ça ne relève pas de la mémoire... Mais ça relève... Alors je ne sais pas comment dire ça avec exactitude. J'ai le sentiment que ça relève de la formation de la légende. Si vous voulez, c'est-à-dire la mémoire se transforme, oui, en légende. Donc prend une qualité lumineuse particulière, je pourrais dire. Mais évidemment, je suppose que mon expression reste assez vague. Parce que... C'est une sensation que vous réveillez, comme ça, et que je ne sais pas comment restituer mieux. Sinon que, du coup, les choses prennent une espèce de légèreté, en quelque sorte libérée même de la mémoire. Voilà.
Aujourd'hui, ce sont plutôt des récits monologues que vous écrivez.
Oui. Non, je dois dire d'ailleurs...
Mais les dialogues sont peut-être cachés dedans.
Ah oui. Je dois dire d'ailleurs que mon seul désir, enfin, en fait de œuvre, puisque c'était de réunir mes monologues. Mais comme ils ne sont pas encore terminés, je ne sais pas s'ils... Enfin, ce que je souhaite écrire, il en reste encore deux à écrire. Et tant que je ne les aurai pas faits, mais peut-être ne les ferai-je jamais... Je ne songeais évidemment pas à faire un volume incomplet.
Donc après le volume politique, ça sera le volume monologue ?
Ben rien n'est moins sûr, parce que, si vous voulez, parmi les monologues que je voudrais écrire, il y a le « nous ». Je me demande si on peut encore écrire un « nous » aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Vu la situation générale... politique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse écrire le « nous ».
Le « nous » commence à deux.
Oui, mais...
Et deux, ça suffit pour une étreinte.
Oui, mais pas pour un... Enfin, c'est pas ce que visait mon « nous ». Le « nous », c'était vraiment le collectif. Enfin, ce que j'imagine, puisque je n'ai pas écrit. J'imaginais, au fond... Oui, faire le court roman du collectif, des choses comme ça. Alors, je me dis que je pourrais le remplacer par « il » au pluriel, qui serait le monologue de la violence et de la répression. « Il ».«
Il » au présent et « nous » au passé.
Oui. Oui, c'est vrai, on pourrait combiner les deux.
Thank you.
Les plumes d'Eros, le livre de Bernard Noël, est publié chez POL. Du jour au lendemain, Serge Ristich, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 16 avril 2010 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.